VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Midi à Kinshasa, 11h à Abidjan. L'opération anti-djihadiste française Barkhane au Sahel, qui mobilise quelques 4000 hommes, est une opération de longue durée, même s'il est nécessaire de la faire évoluer, de faire évoluer notre engagement, a estimé aujourd'hui le chef d'état-major français des armées, le général François Lecointre. À la fin du mois de novembre dernier, le général avait déjà évoqué sa volonté d'ajuster le dispositif français au Sahel tout en accroissant l'aide militaire aux pays de la zone. Amnesty International presse le Nigeria d'ouvrir une enquête sur 89 déversements d'hydrocarbures qui ont eu lieu dans la région pétrolière du Delta, dans le sud-est du pays, l'un des endroits les plus pollués de la planète, accusant Shell et Eni d'avoir dissimulé les causes de la pollution. Dans un rapport publié donc aujourd'hui, l'ONG internationale de surveillance des droits de l'homme affirme qu'il existe de bonnes raisons de douter des arguments avancés par les deux multinationales pour justifier les causes de ces marées noires. La nouvelle représentante des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougui, a demandé justice pour les victimes du Kasaï. Elle a effectué son premier déplacement hors de Kinshasa, dans cette région qui a retrouvé un calme précaire. Morgan Guiriek.
Déjà, il faut dire qu'il ne s'agissait presque pas d'un conseil ministériel, parce que un conseil ministériel sous-entend un débat entre le président de la République et les membres du gouvernement, mais dans ce cas, il s'agissait d'une...
Nous demandons justice pour ceux qui ont été victimes des atrocités. Une justice vraie pour ceux qui ont perdu la vie, a déclaré Mme Zerougui à Chikapa, grande ville du Kasaï. Le conflit au Kasaï, selon l'Église, a fait plus de 3000 morts. Deux experts de l'ONU, la suédo-chilienne Zaida Catalan et l'américain Michael Sharp, ont été tués le 12 mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur des fosses communes. Kinshasa affirme que c'est l'œuvre des membres du mouvement Kamuina Nsapu, entrés en rébellion suite à la mort de leur chef traditionnel dans un assaut de l'armée en août 2016. Quatre suspects ont comparu devant un tribunal militaire. Un procureur canadien nommé par les Nations Unies est arrivé en novembre pour appuyer l'enquête sur la mort des deux experts. La visite de Mme Zerougui intervient à 2 semaines du renouvellement du mandat de la MONUSCO, avec deux enjeux qui sont la sécurité et les élections générales prévues le 23 décembre prochain.
Voilà, et nous allons maintenant aller au Zimbabwe. L'ex-président Robert Mugabe a mis fin hier au silence qu'il respectait depuis sa démission en novembre sous la pression de l'armée et de son parti, déplorant avoir été la victime d'un coup d'État qu'il a qualifié de honte, à effacer. Le point avec Raissa Girondin.
Je dis que c'était un coup d'État, a déclaré Robert Mugabe, 94 ans, dans le premier entretien télévisé diffusé par la SABC, la chaîne publique sud-africaine. « Nous devons effacer cette honte », a poursuivi l'ancien chef de l'État. Après 37 ans au pouvoir, il a été contraint de démissionner le 21 novembre dernier, lâché par l'armée, la ZANU-PF au pouvoir et la pression de la rue. Il a été remplacé par Emmerson Mnangagwa, son ancien vice-président, qui l'avait limogé sur les conseils de son épouse Grace Mugabe. Des élections générales sont annoncées pour cette année, mais la date n'est pas encore connue. L'apparition de Mugabe sur une photo aux côtés de l'ex-général Ambrose Mutiniri avait les plus folles rumeurs sur son éventuel retour en politique. Monsieur Mutiniri a quitté la ZANU-PF et a créé un nouveau parti, le Front National Patriotique, et s'est déclaré candidat à la présidentielle. Le président Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, est lui aussi déjà en campagne.
Une hôtesse de la compagnie Emirates est morte après être tombée lors d'une sortie d'urgence d'un avion parqué sur l'aéroport d'Entebbe. Un témoin travaillant à l'aéroport, Isaac Seremba, a estimé que la chute pouvait être un suicide, tandis qu'un quotidien local, le Daily Monitor, a également évoqué un geste intentionnel citant des sources non identifiées. Le Soudan du Sud a encore changé cette semaine de ministre des Finances pour tenter de ralentir le déclin inexorable de son économie. Mais pour les analystes, les perspectives d'amélioration sont minces, tant que durera la guerre civile et que régnera la corruption. Le président Salva Kiir a nommé Salvatore Garanga Mabiordit, un ancien sous-secrétaire au sein du ministère des Finances, pour occuper les fonctions de ministre après avoir limogé mardi Stéphane Diodo. M. Garang est le 5e ministre des Finances depuis que le pays a fait sécession du Soudan en juillet 2011. Le Soudan du Sud a ensuite plongé dans la guerre civile en décembre 2013.
Afrique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'administration Trump a annoncé une série de sanctions contre des individus et des entités russes. C'est en réponse à l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et à plusieurs cyberattaques. Abou Ramandia.
Au total, 19 individus, dont un homme d'affaires proche du Kremlin, sont visés par ces sanctions. 5 entités sont également ciblées, parmi lesquelles les services de renseignement intérieur et les services secrets de l'armée russe. Moscou a immédiatement réagi, promettant des mesures de représailles. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a estimé que les sanctions américaines étaient liées à l'approche de l'élection présidentielle russe prévue dimanche, dont Vladimir Poutine est le grand favori. Le Congrès américain s'est prononcé pour des sanctions contre la Russie, mais le Trésor s'était jusqu'ici contenté de publier fin juin une liste de 200 responsables russes sans annoncer de mesures punitives. Plusieurs des personnes visées par les mesures annoncées hier ont été inculpées mi-février dans l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'interférence russe lors de la campagne aux États-Unis.
Et Moscou a promis de riposter aux sanctions annoncées jeudi par Washington en allongeant sa liste noire de personnalités américaines, rapporte aujourd'hui l'agence de presse RIA qui cite le ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Washington a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre 19 ressortissants et 5 organisations russes dans le cadre de l'ingérence présumée de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016. Retour sur le dossier de ce journal que nous avons diffusé tout à l'heure, en début de journal, où le président Paul Biya demande à l'armée du pays de poursuivre ses efforts pour un retour à la normale dans l'Ouest anglophone. Les troupes camerounaises combattent les séparatistes anglophones dans cette région en proie depuis plus d'un an à une profonde crise socio-politique qui s'est peu à peu muée en conflit de basse intensité. Cette requête du chef de l'État qui est au pouvoir depuis 82 a été formulée hier lors de son premier conseil des ministres depuis 2015. La réunion s'est déroulée à huis clos au Palais de l'Unité. Pour en savoir davantage sur ce rendez-vous gouvernemental longtemps attendu, Raissa Girondin s'est entretenue avec le journaliste camerounais Joseph Essama. On n'aura pas Joseph Essama pour ce journal. Nous allons continuer donc avec la suite. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a accusé aujourd'hui les Occidentaux de chercher à préserver le potentiel militaire des terroristes en Syrie à l'issue de pourparlers avec l'Iran et la Turquie à Astana. Au Kazakhstan, la Russie et l'Iran, alliés du régime de Damas, et la Turquie soutien des rebelles, se sont réunis vendredi dans la capitale kazakh pour évoquer la situation en Syrie et notamment la crise humanitaire dans la Ghouta orientale, bastion rebelle que les forces gouvernementales tentent de reprendre depuis un mois via une offensive meurtrière. Dans un communiqué final à l'issue des pourparlers, les trois pays ont promis de continuer à liquider le front al-Nusra et les autres groupes associés avec Al-Qaïda. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a critiqué l'Iran jeudi, lui reprochant de se mêler des prochaines élections en Irak et de tenter d'influencer les voix en faveur de candidats pro-Téhéran en parlant à des journalistes au retour de son voyage à Oman, en Afghanistan et à Bahreïn. Le chef du Pentagone a raconté que les responsables rencontrés étaient inquiets du comportement iranien. Et je l'ai dit en début de journal, l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, qui mobilise quelques 4000 hommes au Sahel, est une opération de longue durée, même s'il est nécessaire de faire évoluer notre engagement. Ce sont les propos du chef d'état-major français des armées, le général François Lecointre. Il avait déjà évoqué sa volonté d'ajuster le dispositif français au Sahel, tout en accroissant l'aide aux pays de la zone. Et puis Amnesty International presse le Nigeria d'ouvrir une enquête sur 89 déversements d'hydrocarbures qui ont eu lieu dans la région pétrolière du Delta, l'un des endroits les plus pollués de la planète, accusant Shell et Eni d'avoir dissimulé les causes de la pollution. Jean-Roger Billon à ce micro. Toutes nos excuses pour les difficultés techniques rencontrées. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes et ce sera accompagné de Henri Francisque. Merci et merci encore pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.